Bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet un peu difficile, mais non moins intéressant, surtout aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prévention du suicide, organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Hein, c'est bien pour ça qu'on a choisi cette date. Alors, pourquoi parler maintenant du deuil après suicide? Bien parce que il y a eu l'année dernière une réunion importante qui a fait suite à une réflexion non moins importante de professionnels sur ce sujet, le deuil après suicide, dans ce qu'on appelle une audition publique. C'est-à-dire que c'est après un travail de bibliographie internationale sur plusieurs mois. Des spécialistes se sont réunis sous l'égide de nos deux associations, Fédération européenne Vive son deuil, un groupe en études de prévention du suicide, mais aussi la Fédération française de psychiatrie et le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé, donc a regroupé ces personnes. Et il y a eu donc une audition publique, c'est-à-dire qu'il y avait 300 personnes qui ont écouté pendant 2 jours donc ces professionnels. Mais d'autres personnes ont écouté, c'était un jury hein, fait de gens comme vous, voilà, mais aussi de gens venant de milieux très divers, éducation nationale, milieu du travail, etc. Et sous la baguette d'un de nos collègues, ils ont écouté ces 2 jours, et puis ensuite ils se sont retirés, hein, je dirais en conclave quasiment, pendant 48 heures. Et ils ont proposé donc ensuite hein, ce qu'on appelle des recommandations. Alors ces recommandations sont sorties récemment. Voilà, donc elles permettront d'être un guide pour les pouvoirs publics hein, en particulier. Alors, je vais vous passer en revue rapidement ce que peut représenter pour nous un deuil normal. Et puis ensuite, on va s'appesantir un petit peu plus sur un deuil pathologique particulier, le deuil après suicide. Alors, je pense qu'ici, nous sommes probablement tous des endeuillés, hein, c'est-à-dire qu'on a tous perdu... probablement un être cher, donc c'est un état qui est un état normal hein, d'être endeuillé. Alors, le deuil, bien, il existe depuis que le monde est monde, bien évidemment. Et plusieurs théories ont essayé de voir le jour pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Ensuite, on a essayé de travailler sur bah, comment avancer dans le deuil. Et puis, quelles sont les limites entre un deuil qu'on pourrait qualifier de normal et un deuil donc pathologique, c'est-à-dire entraînant une souffrance tout à fait désorganisante hein, chez l'individu et l'empêchant de réinvestir facilement d'autres choses dans la vie. Alors, très rapidement, les théories sur le deuil, c'est juste pour vous montrer un peu cette diversité. Les conceptions du deuil bon, ont bien sûr beaucoup évolué depuis 50 ans, les rites, les rituels également, hein, comme vous le savez. Et on peut diviser ces théories en 3 grands modèles. Le premier, ce sont les modèles de crise. Hein, le deuil serait une crise particulière, dans toute l'acceptation de ce mot crise. Ça peut être aussi des modèles de transition. Il s'est passé, on vivait d'une certaine manière à un moment donné, puis ensuite, il y a eu cette perte de quelqu'un, et ben, c'est une transition, il s'est passé quelque chose, et après, on va vivre autrement. Et puis, d'autres modèles qui sont basés sur le contexte social, c'est-à-dire comment la société vit-elle également ses mutations, ses pertes, comment elle se réorganise, hein, comment est-ce qu'on vit après un événement de ce type-là. Alors les modèles de crise, il en existe beaucoup, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous montrer un tout petit peu l'état d'esprit. Lindman, en 1944, proposait le deuil comme une crise qui vient rompre l'équilibre de l'individu. Il décrivait nombreux symptômes aigus de deuil qui, dit-il, se résolvent en 4 à 8 semaines. Je me permets de rajouter entre parenthèses, n'est-ce pas plutôt une première phase de deuil ? N'est-ce pas plutôt un premier épisode, en effet, qui une première étape, hein, mais peut-être pas complètement le deuil. Donc, un autre auteur américain qui s'appelle Kaplan, en les années 74, lui, insistait sur le fait que le deuil n'est pas une crise, disait-il, lui, mais une série de crises. C'est-à-dire qu'on retrouve là un peu cette idée d'étape, hein, il y a plusieurs étapes, hein, et ce n'est pas qu'une seule, c'est dans le temps, plusieurs moments, hein, où il va se passer des manifestations particulières qu'on va détailler. Les modèles de transition ont intéressé davantage les auteurs, et en particulier Mousse et Tsou, qui, eux, décrivent tout simplement une phase aiguë et une phase de réorganisation. On va mal, il y a le deuil, et puis ensuite, hein, on va réinvestir la vie. Et Kavanagh, lui, en propose 7. Voilà, on ne va pas tout détailler, bien sûr. Levin, lui, 4. Une phase de désorganisation, de réaction, de recherche et d'adaptation. Certainement plus intéressant, Elisabeth Kübler-Ross, que certains connaissent peut-être, hein, parce qu'elle a beaucoup travaillé avec des patients en fin de vie, des patients cancéreux, etc. Mais aussi donc, des patients en deuil. Et elle propose, hein, vous verrez, un certain nombre d'étapes que certains reprendront d'une autre manière. Ces étapes, quelles sont-elles ? Bien, tout d'abord, le déni. La colère, hein, à un moment donné, vis-à-vis de ce qui s'est passé, le marchandage, hein, c'est-à-dire que bon, si je fais ci, j'irai peut-être mieux, parfois des épisodes de dépression, et puis enfin, une certaine acceptation. Flatt, en 87, lui, 1987, en détaille davantage ces éléments et parle de choc, de lamentation, de repli, de frustration, hein, il va falloir vivre sans l'autre, de moments difficiles, de style panique, hein, moments dépressifs, un certain détachement à un moment, une adaptation, et enfin un réinvestissement, hein, de la vie et une certaine croissance, donc bah, peut-être quelque chose donc, qui permettra de grandir. Un certain consensus va autour de travaux de deux auteurs assez connus, surtout John Bowlby, hein, qui a beaucoup travaillé sur l'attachement. Il a travaillé sur l'attachement en général, mais aussi sur l'attachement entre des parents et des enfants, une mère et son bébé, etc. Et bien sûr, si on travaille sur l'attachement, on va travailler aussi sur bah, les moments où cet attachement va changer de nature, puisque la personne peut ne plus être là, c'est-à-dire elle est morte. Et à ce moment-là, ben, l'attachement existe toujours, mais il va falloir vivre avec un attachement, bien sûr, différent avec l'absence de la personne. Ainsi, Bowlby a montré que le processus de détachement pouvait passer par 4 phases. Un choc initial, bien sûr, hein, quand il se passe le moment du décès. Une phase de protestation. C'est pas possible, je comprends pas, ça aurait pas dû se faire, pourquoi lui, enfin, etc., ou elle. Une phase de désorganisation, qui s'accentue et qui rend les gens un peu perdus dans leur vie. Et une phase de réorganisation. Ainsi, l'individu va se détacher pour se réinvestir, hein, c'est le sevrage d'une relation d'attachement, d'un certain côté, d'une relation d'attachement, je dirais, moi, avec un être vivant, mais ce qui permet un réinvestissement dans le monde des vivants. Mais moi, je rajouterais que cet attachement doit continuer, mais autrement, certainement avec une certaine forme de sublimation, hein, c'est-à-dire autour de souvenirs, autour d'éléments matériels, par exemple. Enfin, les modèles basés sur le contexte social. Trois points. Le premier, c'est que le deuil remplit une fonction d'expression sociale des réactions de chagrin suite à une perte. Et le deuil a obéissé, en tout cas, il n'y a pas encore si longtemps, un certain nombre de manifestations sociales et de reconnaissances sociales. Hein, quand on était endeuillé, on s'habillait d'une certaine manière, hein, portait un crêpe, on est habillé en noir, ou certaines couleurs étaient interdites, enfin, etc. On savait, quand on croisait des gens dans la rue, s'ils étaient endeuillés ou pas. Hein, maintenant, c'est plus compliqué. Et puis, il y avait aussi un certain rythme social du deuil. Le deuil remplit une fonction donc, d'adaptation, qui sert donc à gérer le stress induit par la mort, et qui est entouré par la société à ce moment-là, qui accompagne la personne endeuillée. Le deuil peut également assurer une fonction de transformation des rôles sociaux, hein, et la société va encourager et accepter certaines transformations. Si on a perdu un membre de sa famille, un parent, père, une mère, un mari, une femme, bien évidemment, ceci va changer la place, par exemple, qu'on va avoir dans la société. Et bien évidemment, ceci occasionnera des transformations de ces rôles sociaux. Mais alors, qu'en est-il des rites ? Est-ce que les rites, donc, maintenant, n'existent plus ? Je pense qu'il en existe encore quelques-uns, mais peut-être moins codifiés ou différents, en tout cas, de ceux d'il y a 30 ou 50 ans. J'aime bien ponctuer les choses par des dialogues de personnes, et je retiens ceci. On a tous des manières différentes de réagir au deuil, à la douleur, au manque. Certains parlent, argumentent et échafaudent des théories longuement, comme pour combler le vide. D'autres, au contraire, se taisent avec l'application de l'enfant concentré sur un problème de mathématiques. Pour ma part, les peines intenses m'anesthésient. Voilà quelques réflexions où vous pouvez peut-être vous trouver ou vous retrouver dans certaines. Que je parle ou que je garde le silence, je suis alors vide. Je subis l'anéantissement de mes émotions, semble être mon système personnel de protection. Je suis alors capable de continuer. Une part de moi s'occupe des autres, des relations sociales, de l'intendance en somme, tandis que l'autre habite mon lepin d'enfer, soigneusement privé, à l'abri des regards. On voit bien ici donc les modes de fonctionnement qu'on peut utiliser consciemment ou non, des modes de protection, ce qu'on appelle dans notre jargon des moyens de défense, qui vont nous permettre de continuer à vivre malgré ce deuil qui peut être difficile, soit par l'activité, soit par une activité sociale particulière, mais qui n'empêche pas, bien sûr, que dans son fort intérieur, il puisse exister ce que cette personne appelle son lepin d'enfer. Alors, si nous voulons un peu résumer tout ceci et le présenter de manière un petit peu plus simple, je vous propose ce schéma qui est forcément qu'un schéma, mais qui résume peut-être les différentes étapes qu'on peut rencontrer après un deuil. Tout d'abord, bien sûr, la perte, avec son cortège, bien sûr, de signes, le choc initial, souvent des éléments de protestation et d'incompréhension, d'incrédulité, des manifestations de désorganisation, et vous voyez les flèches vont dans les deux sens, c'est-à-dire que il peut y avoir alternativement et même parfois une stagnation autour de ces stades, une certaine réorganisation à certains moments, on sent qu'on va mieux, et puis d'autres moments ça va moins bien, c'est jamais linéaire, vous n'avez jamais une évolution complètement linéaire, et puis sur ce schéma, ce que l'auteur, qui n'est pas moi, parle d'aboutissement du travail de deuil. Pour notre part, nous préférons dire que le deuil est un état, hein, et non pas quelque chose de transitoire, puisque quand on est endeuillé pour toute sa vie. Et on ne s'arrête pas, on est toujours donc dans cet état-là. Par contre, bien sûr, les signes vont évoluer au fur et à mesure du temps. Hein, et ensuite, lorsqu'il y a une possibilité de réinvestissement, ceci va beaucoup mieux. Néanmoins, il ne faut pas oublier que lorsque, après un deuil, d'autres vont suivre, il peut y avoir aussi des réactivations de ces deuils, hein, bien évidemment. Alors, tout d'abord et rapidement, une analyse schématique, et ensuite, on passera donc au deuil pathologique. Schématiquement, bon, c'est la perte d'un être proche, le choc, avec parfois une période de déni et d'engourdissement, hein, c'est incroyable, on n'y croit pas trop. La réalité de cette mort est quelque chose qui va prendre du temps. Des pleurs, recherche de sens, parfois la recherche d'un coupable, d'autres moments, même si c'est une maladie, hein, dire est-ce qu'on a été bien soigné, etc. Et puis il faut essayer d'accepter ce que nous appelons la permanence de la perte, hein, c'est-à-dire que quand la personne est décédée, elle ne va pas revenir. La désorganisation avec un sentiment d'impuissance et de colère plus ou moins intense, parfois des sentiments de culpabilité, j'aurais pu l'accompagner plus, j'en aurais pu dire plus souvent, j'aurais pu faire ci ou ça. Parfois des sentiments de honte vis-à-vis de son comportement, des sentiments de baisse d'estime de soi, des sentiments de rejet et d'abandon, hein, qui peuvent entraîner parfois des difficultés d'être seul, puisque lorsqu'on n'est pas bien, on peut des fois être un petit peu agressif avec les autres, et ceci peut majorer l'isolement social. Une réaction anxieuse et dépressive, hein, tout à fait normale, bien évidemment. Hein, on ne parle pas ici de maladie dépressive, hein, mais simplement de réaction. Hein, parfois des idées de désespoir et rarement, bien sûr, des idées de suicide. Hein, plutôt des idées parfois, je souffre trop, j'aimerais mieux le rejoindre, mais ce n'est pas forcément lié directement à des idées de suicide. La réorganisation peut se faire sur le mode d'une certaine restructuration en acceptant la perte, en retrouvant un regain d'intérêt, et puis en petit à petit, parfois, en modifiant donc l'image de soi avec une adaptation donc de nouveaux rôles sociaux et le réinvestissement à travers donc des nouveaux liens d'attachement. L'aboutissement donc de ce travail de deuil. Eh bien, la personne reste endeuillée toute sa vie. Le deuil évolue dans le temps, mais ne s'arrête jamais. Dans tous les moments importants de la vie, par contre, l'anniversaire, naissance, fête de famille, etc., il peut se produire donc ce qu'on pourrait appeler une réactualisation de ce deuil. Le deuil n'est donc jamais réglé une fois pour toutes. Et un signe d'amélioration pourrait être que l'endeuillé puisse évoquer la personne décédée sans trop souffrir. Mais la culpabilité peut être réactivée si l'endeuillé a le sentiment parfois d'oublier le défunt à un certain moment du chemin de deuil. Alors, quelles peuvent être les limites entre ce qu'on appelle le deuil normal et un deuil qui serait un deuil pathologique ? Alors, ces limites, elles vont s'exprimer à travers des différences, et notamment des différences individuelles, notamment autour de l'âge. Hein, un enfant, un adolescent, un adulte plus ou moins jeune, une personne plus âgée ne va pas réagir de la même manière. Différence avec le sexe, on en dira un mot tout à l'heure. Hein, les hommes et les femmes ne s'expriment pas de la même manière. L'appartenance sociale, la culture, hein, son lien avec la personne décédée, hein, sont parmi les facteurs principaux, hein, qui vont modifier la manière de réagir. Un dernier point important sur ces différences, c'est aussi la façon de vivre, et puis cette façon de vivre va être corollaire des facteurs de risque ou des facteurs de protection que nous pouvons avoir eu dans notre vie. Ces facteurs de risque sont liés à des événements de vie qui sont plus ou moins douloureux et dont on a pu être victime. Mais en regard, il est important aussi de rechercher des facteurs de protection, hein, c'est-à-dire des événements positifs qu'on a pu avoir et qui nous ont permis de vivre des moments agréables et qui nous ont permis surtout, en particulier pendant l'enfance et l'adolescence, de nous structurer d'une manière, je dirais, apte à supporter notamment certains abandons. Le deuxième point pourrait être autour de la qualité de la relation entre l'endeuillé et le défunt, notamment le degré d'attachement, ces liens d'attachement et ces liens de dépendance, la durée et l'intensité bien sûr de la relation, et enfin le degré d'ambivalence qui peut donner lieu à des émotions antagonistes. Nos relations avec les uns ou les autres peuvent être en effet des relations complexes. On peut bien sûr aimer quelqu'un, mais à certains moments, il peut y avoir quelques éléments de désamour, si vous me permettez ce néologisme. Et parfois même des moments où il peut exister des moments de rejet, voire de haine. Mais souvent, on ne va haïr que surtout ce qu'on aime. Mais on peut se reprocher a posteriori ces moments où on a pu être désagréable, notamment après le décès de notre proche. Enfin, la personnalité de l'endeuillé est à prendre en compte. Personnalité, surtout, mesurée à l'aune de sa vulnérabilité et de ses possibilités de faire face, comme on dit maintenant, de résilience. Comment être capable de faire face à certaines situations. L'existence d'une psychopathologie familiale, bien sûr, peut compliquer cette évolution, c'est-à-dire s'il existe des dysfonctionnements graves, bien sûr, dans la famille, ça n'aidera pas à la structuration de l'individu et à la structuration de sa personnalité. Donc, ceci aura comme corollaire une plus grande difficulté à supporter les manques et les pertes. Donc, on peut ici proposer un modèle de vulnérabilité autour de la résilience dans l'adaptation au deuil, en reprenant donc ces facteurs de risque et de protection, notamment en recherchant les pertes ou les expériences précoces d'adversité, les placements multiples, les violences intrafamiliales chez les enfants, etc. Les pertes et séparations précoces, les abus, les négligences, et bien sûr l'importance de la cohésion et de la chaleur familiale qui vont intervenir, elles, plutôt comme facteurs de protection, bien évidemment. La psychopathologie familiale et personnelle peut tourner autour des pertes et relations d'attachement au cours de la vie, mais aussi la qualité des relations d'attachement avec une peur de l'intimité, de la méfiance, un enchevêtrement entre pertes et séparations multiples, tout ceci se répercutant et se percutant les uns les autres. Et nous pouvons résumer ceci sur ce modèle où nous voyons donc les facteurs de risque et de protection qui ont une incidence sur la vulnérabilité et la résilience, mais aussi donc interviendront sur le parcours de vie de l'endeuillé, la psychopathologie familiale et personnelle, et tout ceci va modifier les modes de résolution du deuil. Et in fine, il y aura donc une indication d'adaptation ou non, plus ou moins importante, de ce deuil. Alors, pour vous montrer la variabilité qu'on peut lire dans la littérature, j'ai sélectionné trois auteurs, des auteurs plus anciens et des auteurs plus récents. On trouve ainsi une variation dans le temps. Suivant les auteurs, par exemple, Parks parle de 12 à 18 mois. Il a fait des études dans des populations de femmes veuves. Rando parle de 4 ans pour les enfants, mais dit-il, elle peut être plus longue, car elle se fait par intermittence. Et Monique Seguin, qui est professeure de psychologie au Canada, à Québec, elle parle d'un cycle de 2 ans avec le premier Noël sans lui ou elle, qui étant une phase pour elle très importante. Et puis, ça va un peu mieux, et puis ça recommence, ça va un peu mieux. Voilà, elle décrit un peu des choses, un peu de ce style-là. Donc, vous voyez, c'est... Bon. Alors, un autre moment fondamental, et je pense que vous serez sûrement d'accord avec moi, et là, les auteurs sont quand même globalement assez d'accord, c'est entre 6 mois et 1 an. Si au début, en effet, souvent l'endeuillé va bénéficier d'un certain entourage, au bout de quelque temps, l'entourage se lasse. Hein, et dit, bah, écoute, maintenant, il faut que tu te secoues, ça fait déjà un petit moment, et puis maintenant, il faut que tu tournes la page et que tu oublies. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est des fois ce qu'on peut entendre. Alors, c'est très maladroit, bien sûr, et ça va, boum, juste à côté, et c'est pas ce qu'il fallait dire, surtout dans ces moments-là, et parce que, justement, vers 6 mois, les endeuillés sont à peine donc, dans cette phase de désorganisation, souvent. Et c'est là où ils vont le plus mal, pour certains. Et pourtant, l'entourage leur dit d'aller mieux. Hein. Les soutient moins, et c'est la période où ils vont plus mal. C'est ce que j'appellerais un véritable creux social, hein, alors qu'il faudrait, au contraire, avoir un soutien plus important. Hein. D'où l'importance d'enseigner un petit peu plus ces choses autour de nous. Alors, quelques dialogues encore. Hein. J'ai passé toute mon enfance à redouter la mort de mes parents, hein, disait quelqu'un. Depuis le fameux « on meurt tous un jour », asséné sans plus de précaution par un oncle quelconque, c'était devenu une obsession. Un autre, ma mère s'attardait au Leclerc, accident de voiture. Mon père rentrait tard du chantier, accident de travail. J'ai eu le temps de m'y habituer à leur mort, m'a dit un autre. Aujourd'hui que ça approche à pas de géant, je comprends mieux que je ne faisais ce que je ne faisais qu'entrevoir. Je comprends que leur mort ne sera pas la mienne. Ça n'enlèvera évidemment rien à l'inévitable horreur de la chose, mais je ne me tromperai pas de deuil. C'est bien là la moindre des choses que je leur doive, c'est-à-dire que ça sera vraiment leur deuil à eux. Puisque lors d'un deuil, souvent vont se mêler aussi d'autres pertes qu'on a pu avoir dans la vie, pas forcément des pertes d'individus, de personnes, mais des pertes ou des échecs hein, qui vont potentialiser ce malheur qu'on a pu avoir. Alors un auteur qui s'appelle Worden propose des tâches pour que le deuil se passe mieux. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Acceptation de la réalité de la perte, expression de la douleur reliée à cette perte, hein, pouvoir exprimer davantage cette douleur, que ça soit permis, adaptation à un environnement dans lequel le défunt est absent, retrait progressif de l'énergie émotionnelle de cette relation et réinvestissement dans d'autres relations. Hein, alors, là aussi, attention à ce qu'on appelle des objets de substitution, hein, comme un conjoint de remplacement ou un enfant de remplacement. Ça ne peut pas être quelqu'un qui remplace. Hein. Et moi, je rajouterais même, je ne l'avais pas écrit, mais j'aurais dû le rajouter, un animal de remplacement. Hein. Parfois, quand on perd aussi un animal, c'est aussi un deuil important, hein, ce n'est pas rien du tout. Et certains disent, bah, écoute, t'inquiète pas, je vais t'en acheter un autre, et puis ça continuera pareil. Eh ben non. Hein. Alors ça paraît plus facile, et pourtant ça peut être quelque chose de difficile, notamment chez certaines personnes âgées, hein, qui ont vécu pendant 10 ans, 15 ans avec un animal, et bien quand il décède, il faut quand même être quelque part dans un chemin de deuil. Alors, ça peut paraître peut-être pour certains d'entre vous excessif, mais je crois que ça ne l'est pas, hein. À telle enseigne que nos amis suisses hein, proposent un numéro d'écoute pour ceux qui perdent leur enfant, mais qui perdent leur animal. Voilà, hein, vous voyez, et ils ont beaucoup de succès. Alors le deuil des hommes, alors pourquoi mettre à part les hommes ? Eh bien parce que les hommes sont bien sûr des êtres humains, mais ne sont pas des femmes. Et les hommes, parfois, ont des expressions qui ne sont pas les mêmes. Hein, notamment, ils s'expriment assez peu, souvent. Ils ont du mal à pouvoir le dire, ou on ne leur permet pas toujours de le dire, ou ils ne vont pas le dire parce qu'ils ne veulent pas en rajouter avec leur femme, hein, parfois. Hein, ils ne veulent pas aggraver les choses, ils veulent soutenir leur femme, mais après, ils se disent, mais qui c'est qui me soutient, moi hein, voilà. Alors, ils peuvent avoir d'autres stratégies que j'appellerais plus physiques, hein, notamment dans l'action. Et ainsi, je vous donne deux exemples. Un père qui a remonté la vieille voiture que son fils avait achetée, ou bien un autre qui a fait des travaux dans la maison de son fils. Voilà. Hein, ici, c'était donc un enfant qui était parti, qui était décédé. Alors, le deuil par suicide en lui-même, on ne va pas parler du suicide en détail, ça serait c'est un autre sujet, mais on va en dire juste quelques mots rapides. Le suicide implique bien sûr qu'il va falloir supporter un héritage particulier, hein, dans nos représentations collectives, et il remet en question tous les repères personnels, familiaux et sociaux. C'est une révolution, hein, c'est un bouleversement. C'est un cataclysme. Voilà. Et l'évidence de leur présence au monde, donc cette idée d'être au monde, semble dès lors questionnée, hein, et par le geste que celui qui s'est suicidé nous renvoie, hein, quelque part dans la figure. Alors il va falloir, outre supporter le deuil, il va falloir supporter ce deuil particulier, hein, lié au suicide. Si le suicide est avant tout un acte de violence contre soi-même, c'est aussi un acte de violence extrême contre l'autre, hein, qui va devenir l'endeuillé par suicide. Il utilise la mort comme argument décisif, hein, fermant à tout jamais la relation. Cette idée de violence contre l'autre est quelque chose de souvent difficile à évoquer, mais qui parfois ressort quand même au bout de quelque temps. Car qu'on le veuille ou non, les personnes endeuillées par suicide se sentent aussi un peu molestées, hein, je dirais, par ce qui s'est passé et déstabilisées avec une grande force. Chez l'endeuillé, la recherche de la relation dans le spiritisme parfois existe, ou des intérêts sur les livres, par exemple, La vie après la mort. Voilà, j'ai patiente en particulier qui a perdu un fils par suicide et qui parfois se sent un peu mieux quand elle a l'impression de communiquer avec lui. Voilà. Pourquoi pas? Alors, il ne faut pas que ça envahisse tout le champ de la vie, mais bon. Alors, le suicide confronte aussi abruptement à la réalité, à la mort, hein, va confronter à cette réalité de la mort. Mais à la réalité de la mort de l'autre, non, mais aussi à celle de l'endeuillé par suicide. La remise en question est totale, hein, personnelle, familiale, amicale, auprès des collègues, auprès de la société. Et il y a un risque évident de ce que nous appelons un psychotraumatisme, hein, d'autant plus, hein, que cette réalité de la mort, hein, est venue faire intrusion dans notre tête, dans notre psyché, notamment si on a vu le suicidé agir. Parfois, on a pu voir quelqu'un qui sautait d'un pont ou qui se tirait une balle de coup de fusil ou bien encore qui allait se pendre, enfin, etc. C'est pas fréquent, mais parfois, on peut voir aussi le cadavre. Ça, c'est aussi difficile. Et il n'est pas rare de constater un état de stress post-traumatique aigu, hein, auprès donc de ces personnes. Alors, tentons une analyse un petit peu plus détaillée de ce deuil après suicide. Tout d'abord, cette perte d'un proche par suicide peut être redoutée. Hein. J'ai bien peur que ça arrive, hein, a-t-on dit quelquefois, ou je m'y attendais un peu, mais je n'osais pas y penser. Hein. D'autres fois, bien sûr, c'est plus brutal. Une idée fausse sur le suicide, hein, c'est souvent ceux qui en parlent ne le font pas. Malheureusement, il y en a quand même certains qui en ont parlé, hein, et qui l'ont fait. Hein. Donc, ceux qui en parlent, ben, parfois, bien sûr, s'ils en parlent, c'est qu'ils ont envie que ça se sache, et c'est que c'est bien sûr quelque chose qui leur traverse l'esprit et qui peut même être très présent quotidiennement. Il existe également une dépression chronique persistante, parfois qui va entretenir, hein, ces idées de suicide et qui vont être quasi permanentes, hein, et donc bien sûr favoriser un jour le passage à l'acte. Des pathologies comme la schizophrénie ou bien des personnalités pathologiques qu'on appelle impulsives qui ont tendance à faire des passages à l'acte assez rapides, auto ou hétéro-agressifs, hein, parfois sont bien sûr davantage susceptibles de faire ces passages à l'acte. J'ai rajouté en dessous, hein, parfois, cet exemple, hein, du suicide d'un garçon schizophrène violent, où la mère nous a dit un jour, hein, que après tout ce qu'il lui avait fait vivre, hein, de violence physique, de séquestration, de feu dans la maison, de choses comme ça, elle nous a dit en pleurant qu'elle regrettait son fils, mais que quelque part elle était soulagée, hein, car elle vivait dans la terreur. Hein. Ou bien encore, hein, c'est la personne qui a fait 15, 18, 20 ou 25 passages à l'acte suicidaire, hein, et où la famille n'en peut plus, quoi. Alors ceci est difficile à dire, hein, bien évidemment. Alors ce choc initial, on parlait tout à l'heure de déni, bien sûr, hein, de refus d'accepter ce qui s'était passé. Là, c'est encore plus important que dans un deuil normal. Alors, celui-ci, ce déni, sera différent, bien sûr, si les proches découvrent le suicidé ou s'ils ne le voient pas. Certains vont imaginer la scène, hein, et dans ce deuxième cas, l'imagination peut tout de même provoquer d'importants traumatismes psychiques, notamment lorsqu'il y a certains récits, hein, donnés par les autorités, la police, car vous savez, quand il y a suicide, il y a enquête, et quand il y a enquête, il y a forcément... Donc des moments aussi difficiles. Le choc ressenti après un deuil par cancer est souvent moins brutal. Hein, c'est difficile, mais c'est pas immédiat. Car la gravité et l'évolution de la maladie fait craindre, malheureusement, cette issue fatale. Ici, le sentiment d'incompréhension dans le suicide, hein, est plus importante, hein, et que dans une maladie. L'engourdissement est évident, quelquefois majeur, d'autres fois moins intense. Je vous relate ici une étude d'il y a 3-4 ans, hein, qui a montré que dans les jours qui suivent le décès par suicide, les capacités professionnelles et scolaires sont toujours perturbées. Hein, donc sur une population d'une plusieurs centaines de personnes, on trouve 30% de personnes endeuillées par suicide qui disent de consacrer moins de temps aux loisirs qu'elles pratiquaient auparavant. Plus de 60% désinvestissent leur travail professionnel ou scolaire. 30% ont de vraies difficultés sur leur lieu de travail ou à l'école. 40% ont des problèmes de santé. Et ça, c'est très important à moyen et long terme. Troubles du sommeil et troubles de l'alimentation et du poids, souvent, dans un premier temps. Mais des plaintes psychosomatiques multiples, hein, des plaintes diverses dans le corps et parfois donc des maladies, hein, psychosomatiques, et ces personnes souvent risquent de décéder prématurément, hein, par rapport à d'autres, hein, du même âge, de cancer, de maladies cardiovasculaires en particulier. Le choc après suicide est toujours donc plus brutal et il s'y ajoute l'intervention de la police, hein, qui fait bien sûr son travail, la police ou la gendarmerie. Bon, mais parfois va compliquer, hein, ces premiers moments de deuil. Elle va compliquer, notamment s'il y a, et ça existe, hein, parfois, donc une confiscation du corps, une impossibilité de se rendre dans l'endroit où la personne s'est suicidée. Parfois, une partie de la pièce donc est bouclée. Hein, certains effets personnels sont confisqués, enfin voilà, hein, et ça peut des fois traîner une journée, deux jours, trois jours, enfin, etc. Certaines familles nous relatent des moments assez difficiles et d'incompréhension, hein, vis-à-vis de ce qui se passe. D'autres, ben, c'est plus facile, heureusement. L'intervention de d'autres personnes extérieures, plus rares, hein, c'est l'intervention des médias. Il existe en France une réglementation qui dit que, de toute manière, on ne doit pas parler du suicide de quelqu'un, on ne doit pas le mettre dans les journaux, on ne doit pas donner d'informations. Mais parfois, lorsque le suicide est très spectaculaire et a été vu par d'autres, l'information peut, je dirais, être davantage connue et on peut y faire allusion. Parfois, c'est maladroit, voire, je dirais, très douloureux pour les familles. Hein, un exemple récent où on a pu voir dans un journal local que bon, un jeune s'était probablement suicidé et certains détails étaient donnés de manière en partie, je pense, inexacte, en tout cas qui n'avait pas à être présent dans ce journal. Les parents que j'ai rencontrés se demandaient s'ils allaient d'ailleurs pas porter plainte contre le journal. Lorsque la personne est quelqu'un de très connu, c'est vrai que c'est difficile de, parfois de ne pas le dire. Néanmoins, tout dépend comment on le dit. Mais le fait de révéler tout de même certains deuils par suicide de cette manière-là, c'est quelque chose qui peut être parfois délétère. Alors, il y a maintenant une vingtaine d'années, un chanteur connu qui s'appelait Kurt Cobain, qui était un chanteur de rock, certains connaissent peut-être, s'est donc suicidé. Et puis, dans le monde, il y a eu une centaine de jeunes, pour la plupart, qui se sont également suicidés à la suite. Alors, pourquoi on le sait ? C'est parce qu'ils ont signifié. Hein, ils l'ont écrit que Kurt Cobain étant mort, ils n'avaient aucune raison de vivre, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas nouveau, hein. Le suicide de Werther, etc., c'est aussi quelque chose qui était déjà connu. Donc c'est bien quelque chose qui est à prendre avec précaution. L'endeuillé dit parfois, au début j'ai tout organisé, j'étais comme anesthésié, comme dans un rêve ou un cauchemar, j'ai pu tout régler. Et souvent on est en admiration devant ces personnes qui, souvent même d'ailleurs, n'arrivent même pas à pleurer. J'ai beaucoup de patients qui me disent bah écoutez, je suis très mal, je ne pleure jamais, presque jamais. Voilà. Et quand elle commence à aller mieux, elle commence à pleurer. Voilà. Enfin, ça peut sortir. Voilà. Ça, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais pour certains, j'en ai vu plusieurs. Cet engourdissement peut durer de quelques jours à quelques semaines, hein, et s'il dure plus longtemps, il peut devenir à ce moment-là vraiment réellement pathologique, parce qu'il entraîne beaucoup de souffrance. Lifton a décrit, entre autres, lui, dans d'autres circonstances, un des survivants de Nagasaki, hein, qui était dans un engourdissement quasi permanent pendant des mois et des années. La période de déni est saine et normale. C'est même un mécanisme de protection, hein, ici, qui permet d'accepter graduellement cette réalité. Et il convient de respecter cette attitude qui, normalement, doit céder avec le temps. Mais au début, cela est difficile. Et parfois, on peut avoir des sentiments un peu bizarres. Quelqu'un me disait, je l'ai vu de dos, j'ai couru, je lui ai pris le bras, je deviens fou, c'était un autre. Voilà. Alors parfois, ça peut être aussi quelqu'un qui parle, on se retourne, on pense que c'est lui, parce que ça, la voix, on pense que c'est la même voix, et puis non, bien sûr. Alors on se dit, mais qu'est-ce que tu racontes là, tu sais bien que, mais oui. Et puis d'autres moments de la vie, tout à fait banaux. Hein, mon ami appelait toujours à la même heure, alors quand quelqu'un sonnait à cette heure-là, c'était lui, forcément. Mais c'était jamais lui, bien sûr. C'est aussi vrai dans ceux qui avaient l'habitude de s'appeler au téléphone régulièrement, hein, et que à un moment donné, on a envie de prendre le téléphone, on fait le numéro, et puis on s'arrête, on se dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là ? Voilà. D'où l'impression de certains qui disent, mais je deviens fou. Bien sûr qu'ils ne deviennent pas fous. Hein, mais enfin, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, un peu fou, mais qui est tout à fait fréquent dans ces cas-là. Donc, nous rassurons les gens. Si ce déni dure, cela peut devenir donc vraiment pathologique, et on peut aboutir à une véritable négation de la cause. Cette fois-ci, c'est un vrai déni du suicide, hein, et certaines personnes, n'admettant pas que que leur proche s'est suicidé, ils disent bah, c'est un homicide camouflé. On nous cache la vérité. Et là aussi, il y a à peu près un an et demi, deux ans, une famille a porté plainte contre X pour donc homicide, puisque leur fils était mort. La police avait conclu à un suicide, mais eux ne pouvaient absolument pas admettre ceci, et donc ils ont porté plainte. Il peut exister aussi un déni des conséquences du suicide, et on peut entendre « c'était son choix, ça ne change rien dans ma vie hein, », par exemple. Voilà, moi j'ai rien à voir avec tout ça, c'est une façon de se protéger, bien sûr, hein, on peut le comprendre, hein. Sauf que sur un plan, je dirais, psychologique, ce n'est pas un choix, le suicide, hein, c'est un non-choix. Ça s'impose à la personne parce qu'elle va très mal. Hein, et malheureusement, à ce moment-là, c'est quelquefois difficile de pouvoir la faire revenir en arrière, mais ce n'est pas impossible. Alors, de manière pathologique, le déni peut persister, l'endeuillé peut même penser que la personne n'est pas morte. C'est par exemple le cas d'une veuve dont le mari est décédé, mais qui continue à laver ses vêtements, par exemple, ou à mettre son assiette à table. L'endeuillé vit alors dans, entre guillemets, une sorte de bulle, un peu comme ça, une bulle psychotique. Voilà. Alors elle aussi, elle n'est pas folle, mais c'est quelque chose qui est obligatoire, voilà, qui peut durer un certain temps, des mois, voire quelques années. Ça peut être aussi... la chambre du mort hein, qu'on va nettoyer, qu'on va entretenir, etc., qui est fermée à clé, quand on ne sait jamais s'il venait, enfin, etc., enfin, de préparer. Voilà, ce sont des manifestations de ce type-là qui peuvent exister. Si l'endeuillé reste dans le déni, bien sûr, il va être, vous avez vu, bloqué hein, dans ce chemin de deuil et le réinvestissement affectif sera bien sûr impossible. Un autre moment particulièrement crucial, c'est ce moment de la phase de protestation. Alors cette fois-ci, on y retrouve souvent des pleurs, mais surtout la recherche d'un sens. Pourquoi a-t-il fait ça? Ou même, pourquoi nous a-t-il fait ça? Et là, c'est ce que nous appelons la quête du pourquoi. Et qui va souvent tarauder les gens pendant des mois, des années, voire plus. J'avais été très frappé il y a quelques années par un couple qui avait perdu une fille. On a discuté un long moment et j'avais l'impression, quand il me parlait, que ce deuil était relativement récent, était de quelques semaines ou quelques mois. Et quand je me suis enquéri du moment de ce décès, j'ai appris que leur fille était décédée depuis 25 ans. Et il continuait à chercher, mais pourquoi nous a fait ça, mais pourquoi est-ce qui s'est passé, mais expliquez-nous docteur, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Donc on voit bien que là, on est dans des modes de fonctionnement qui font que les personnes donc, souffrent encore beaucoup et ont eu beaucoup de mal à avancer dans ce chemin de deuil. Donc le suicide est bien une violence extrême pour le suicidé et pour son entourage, qui reçoit bien sûr une blessure profonde et indélébile, mais qu'il faudra pouvoir dont il faudra pouvoir parler. Des sentiments multiples vont assaillir l'endeuillé, notamment le sentiment d'impuissance, sentiment de révolte, de colère en particulier. Et tout ceci, il faut le laisser éclater. Le refouler risquerait de compliquer en tout cas ce deuil traumatique. Donc il faut aussi, pour que ça éclate, il faut qu'il y ait des gens qui puissent le recevoir. Et c'est ça qui est souvent compliqué. D'où souvent l'utilité de consulter ou de rencontrer des associations où il y a donc des personnes qui peuvent entendre ceci, notamment d'autres personnes endeuillées par suicide, mais qui sont plus avancées dans le chemin de deuil et qui peuvent accompagner ces personnes-là récemment endeuillé. La colère se manifeste contre le suicidé qui a abandonné sa famille. C'est pourquoi nous a-t-il fait ça, nous abandonner avec les trois enfants, par exemple. Ceci aboutit souvent à la recherche d'un coupable. Hein, c'est la faute de l'infirmière, du psychiatre qui l'a laissé partir trop tôt, de l'enseignant qui s'en est pas occupé, qui a pas vu qu'il allait mal et qui nous a rien dit, du psychologue. C'est la faute de sa mère, de son père, de sa femme, de son mari. Enfin bon, on peut toujours trouver des tas de coupables. Quelques mots sur une recherche un petit peu ancienne faite par un psychiatre américain qui a écrit à ses collègues pour leur demander s'ils avaient eu des patients décédés par suicide et quelles avaient été leur réaction et la réaction de l'entourage de l'endeuillé. Alors, il a distingué deux groupes. Un premier groupe de psychiatres qui ont refusé de parler avec la famille en disant « mais c'est secret, je vous dirai rien ». Un deuxième groupe qui ont rencontré la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans le premier groupe, les familles ont plus souvent porté plainte. Aux États-Unis, on porte vite plainte. Et pourquoi ? Ben parce que voilà, il comprenait pas. S'il ne veut pas me rencontrer, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Hein ? Ici, donc, les familles ont beaucoup plus de difficultés à avancer dans le processus de deuil. Toujours en fonction de ce que je disais tout à l'heure autour du pourquoi. Les réactions de la famille, cette fois-ci, dans le deuxième groupe. Hein, le psychiatre rencontrait les familles et disait ben, « je ne pourrais pas tout vous dire, mais on peut discuter de notre peine et de notre tristesse d'avoir perdu cette personne. » Ce groupe de psychiatres a été peu poursuivi. Cela permet plus facilement donc à la famille d'avancer dans le processus de deuil. De plus, cela aide le psychiatre à faire aussi son deuil hein, de ce patient. Car le psychiatre aussi est endeuillé d'une certaine manière. C'est une façon aussi de collaborer avec les familles. Alors, est-ce que j'aurais pu changer l'issue fatale ? Alors oui, souvent, cette question est très, va tarauder l'individu. Si j'avais fait un détour, si je l'avais appelé au téléphone, si j'avais raccourci mes vacances, si j'étais pas parti, si je lui avais répondu oui à telle chose, enfin, etc. L'endeuillé évalue et ce qu'il aurait dû faire et ce peut être une évaluation torturante hein, dont il faut tenir compte et qu'il va falloir essayer d'expliciter. Celle-ci peut être renforcée par le voisinage hein, qui peut stigmatiser les endeuillés en leur disant « mais quand même, vous auriez pu faire attention et puis pourquoi vous l'avez laissé alors qu'il était tout seul et pas bien, enfin, etc. Voilà. » Il faut finir donc par accepter la permanence de la perte, hein, qui est beaucoup plus difficile dans ce type de deuil traumatique. La phase de désorganisation, elle fait suite donc à cette phase de protestation, mais il peut y avoir une période de va-et-vient donc, entre ces deux phases, je le disais tout à l'heure. La douleur est aussi normale qu'elle est pénible, hein, et voilà quelques ressentis. Je souffre horriblement, profondément, intensément, durablement à la fois dans mon cœur et dans mon corps. Cette douleur est le signe de la preuve de mon amour pour celui qui s'est suicidé. Je me sens épuisé, littéralement vidé. Tout est difficile. Le moindre petit geste me demande un effort dont je n'ai plus la force, je n'ai plus faim, je n'arrive plus à dormir. Pour les hommes, les femmes et les enfants confrontés à ce drame, il paraît donc trop souvent difficile, voire impossible de parler, de communiquer, de partager ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. La gêne de s'exposer, la crainte d'être incompris, la peur d'être mal jugé, les enferment souvent dans un silence et un isolement, compromettant ainsi l'évolution donc de leur deuil. Le sentiment de rejet, d'abandon, d'incompréhension de la part des autres va accentuer le sentiment de solitude et favoriser l'émergence d'une baisse de l'estime de soi. Une tendance au retrait social et l'isolement, une perte des repères et de sens hein, peut exister. Le suicide effraie et éloigne. La maladie aussi, bien sûr, la mort en général, mais la mort par suicide encore plus. Le sentiment de culpabilité est presque toujours présent, encore plus important après le suicide d'un fils ou d'une fille, voire de plusieurs enfants. Hein, puisque parfois, hélas, hein, dans certaines familles, hein, plusieurs enfants peuvent se suicider. Un exemple le plus fort que j'ai rencontré, c'est une famille de deux garçons de 15 et 17 ans. Et les deux enfants se sont suicidés l'un après l'autre en s'immolant devant la maison, une première fois l'un et l'année d'après l'autre. Comment continuer à vivre après ? Tout ce qu'on a pu faire ou dire est réexaminé à la loupe. J'aurais pas dû faire ça, dire ça, j'ai pas été à la hauteur. Les endeuillés par suicide se flagellent pendant des semaines, des mois, voire des années. La stigmatisation sociale vient aggraver le sentiment de culpabilité personnelle. L'émergence de punitions, ce que j'appelle entre guillemets des punitions, c'est-à-dire souvent des comportements punitifs ou masochistes pour expier ce qui est perçu comme une faute, est fréquente. Il faut essayer d'en faire prendre conscience pour justement pouvoir essayer de lutter contre ces éléments de punition. Car il y a la punition, je dirais extrême, mais déjà la perte de l'être cher, c'est pas la peine d'en rajouter. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des comportements à risque. J'en ai marre, je roule plus vite, je bois plus, etc. L'augmentation du risque suicidaire. Un endeuillé par suicide est quelqu'un qui est aussi potentiellement, parfois, à risque suicidaire. À côté du sentiment de culpabilité, je dirais quelques mots du sentiment de honte, qui est bien sûr différent, puisque la culpabilité étant un mécanisme plutôt interne, la honte répond au regard des autres. Eh bien, ce sentiment est très fréquent et se manifestera différemment suivant le contexte, bien sûr, socio-familial ou religieux. Néanmoins, l'opprobre social jeté sur une famille tend à diminuer, fort heureusement. Mais le sentiment personnel de honte, lui, peut persister. Ainsi, certains décès par suicide seront cachés pour protéger la famille et même le suicidé. C'est le cas de ce père qui cache le suicide de son fils. « J'ai pas pu le protéger dans la vie, dit-il, je veux le protéger dans la mort. » Et il pense que le moyen de le protéger, c'est de ne pas dire qu'il s'est suicidé. Le sentiment de honte participe, bien sûr, à la culture du secret et de l'isolement social des endeuillés par suicide. C'est l'expression centrale et particulière particulièrement du deuil après suicide, et qui a un lien avec ce tabou du suicide, cette réprobation de la communauté et de la société, qui bien sûr diminue, mais qui n'est pas encore, bien évidemment, complètement disparu. Difficile aussi d'admettre cette remise en cause de la société où l'on ne se sent pas bien. Le tabou est donc encore bien vivace, et le suicide effraie et éloigne. Il peut être générateur de secrets délétères, transmis sur plusieurs générations et pouvant favoriser l'émergence de pathologies ultérieures et notamment ce qu'on appelle des pathologies du lien, c'est-à-dire dans une famille où on va cacher le suicide de, je sais pas moi, du grand-père, du père, par exemple, puisque les hommes meurent davantage par suicide, et on va raconter une histoire et puis on va se comporter d'une certaine manière avec ses enfants en étant, par exemple, en fusion avec eux, en ne laissant rien faire, en ayant peur à tout instant qu'ils se suicident, etc. Enfin bon, voilà. Ou bien encore en les éloignant pour pas trop souffrir s'ils disparaissaient. La réaction anxio-dépressive peut se compliquer d'une véritable maladie, c'est-à-dire d'une dépression caractérisée, mais c'est plus tard, plusieurs semaines et mois après. Cet état est favorisé par l'éloignement progressif de l'entourage, on a parlé un peu tout à l'heure. Un sentiment de désespoir peut apparaître avec des idées de suicide en raison d'une douleur jugée intolérable. « J'ai envie de le rejoindre », entend-on souvent. Il faut l'entendre, bien sûr, et le prendre en compte dans notre prise en charge. Cette dépression peut s'alimenter par l'incompréhension du geste et la fixation sur le pourquoi. Et souvent, c'est ce qui va tarauder l'individu tout au long des années. Un petit mot quand même des états dépressifs dits agressifs, qu'on rencontre davantage chez les hommes, mais parfois aussi chez les femmes. À ce moment-là, l'état dépressif ne se manifeste pas principalement par un ralentissement, mais plutôt par des manifestations agressives avec l'entourage. Et à ce moment-là, ça va contribuer à écarter encore plus l'individu qui est désagréable. Hein. Mais pourtant, il est en pleine souffrance, mais il n'arrive pas à dire ce qu'il ressent pour des tas de raisons, hein, et notons ses comportements dans les états dépressifs chez les hommes. Quelques complications, tout d'abord un peu le rare, comme la précarité, mais ça existe. Après un deuil par suicide violent chez certains, ils n'ont plus trop envie de continuer cette vie, disent-ils, et préfèrent tout abandonner, le travail, la famille, et se marginaliser. Des comportements addictifs, hein, des prises de toxiques peuvent devenir plus importantes, ou notamment des prises d'alcool majeures, hein, qui vont à terme entraîner cette personne vers la mort. Des maladies psychosomatiques, je les évoquais rapidement tout à l'heure, cancer, angine de poitrine, infarctus, ulcère, asthme, etc., vont être favorisées et là aussi précipiter rapidement ces personnes vers la mort. Un dialogue entre un fils et une mère. Ça va, maman ? Pas fort. Dis-moi ce qui se passe. Je suis triste, Marco. J'ai beau me dire que c'est normal, j'ai beau voir le psychologue et prendre tous ses médicaments, j'ai beau vivre avec obstination, je suis triste, toujours. Mais bon, je suppose que c'est le cas de toutes les veuves, ou presque. Les amis ne viennent plus me voir. Ils disent que c'est pour ne pas me déranger. Mais moi, je sais bien que c'est parce que cette maison pue la mort. La mort violente et sordide. Si ton père était mort à l'hôpital ou dans un accident de voiture, je suis sûr qu'il fleurirait sa tombe de temps en temps. Je dois être la seule à être encore fière de lui. Le fils, je suis fier aussi. Quand j'ai vu son cercueil, j'ai pensé qu'il était trop petit, que ton père n'y entrerait jamais, et pourtant si. On paraît plus grand vivant que mort. Il est indispensable de mettre ainsi des mots sur ces images traumatisantes et de pouvoir les exprimer avec une personne de confiance pour progresser dans le chemin du deuil. Personne de confiance qui peut être un professionnel ou un bénévole formé. Bien donc, à qui parler ? Les associations sont nombreuses, les professionnels intéressés et formés à ces sujets existent, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais il y en a. Quelle conduite à tenir devant un risque suicidaire dans l'entourage d'un suicidé, hein ? Ceux qui restent, comme on les appelait. Eh bien, les conjoints, les enfants, les parents, les amis, les collègues de travail sont tous atteints par cette mort que le sujet se donne à lui. C'est sur un fond d'incompréhension, puis de douleur et surtout de culpabilité qu'ils vont réagir. Culpabilité lancinante, hein, qui marquera ce deuil si particulier. C'est d'autant plus vrai que le suicide même, s'il peut trouver des explications plus vastes et plus complexes, comporte toujours une adresse à l'autre. Un « ne m'oubliez pas », tragique, qui inscrira un peu plus fortement encore le disparu dans le souvenir de ses proches. Ce suicide accompli, parfois malgré les siens, « pardonnez-moi, je vous aime, mais je n'en peux plus », peut-on lire parfois sur des mots laissés par des personnes suicidées. Une apparence de reproche à celui ou celle qui n'a pas compris, qui n'a pas aimé suffisamment. Comment ne pas percevoir alors que si le suicidé est mort, ce sont les autres qui se retrouvent en enfer. On peut en effet pleurer un être cher disparu, mais le chagrin éprouvé, si ce dernier s'est suicidé, est souvent refoulé par suite d'une incapacité des proches à parler de cette mort. Ainsi s'opère un double mouvement. Le suicidé s'inscrit violemment dans le souvenir de ses proches, hein, donc très fortement, et ceux-ci n'ont pas toujours la possibilité d'évoquer son souvenir et ainsi de parvenir à supporter ce deuil. D'où l'importance de pouvoir faire continuer à vivre d'une certaine manière ce mort sans que ce mort non plus prenne trop de place. Hein, lorsque, par exemple, certains vont tapisser leur maison de photos du mort, c'est pas très facile non plus pour aller plus loin. Et pourtant, ça se voit. Le suicide a donc un effet de renfermement, hein, qui laisse ceux qui reste dans une grande difficulté à verbaliser le trop-plein de sentiments, de reproches, d'incompréhensions auxquels il les confronte. Alors, comment faire pour aider en particulier les parents en deuil ? Aucune mort, donc, n'est plus triste que celle d'un enfant, et sans doute est-ce la plus difficile à affronter. Dans la société actuelle, les parents ne s'attendent pas à ce que leurs enfants meurent avant eux. Aussi, chaque année, des milliers de parents font face à la perte de leur enfant. Chaque jour, ils doivent essayer de reconstruire leur vie brisée. C'est loin d'être facile. Les amis et la famille qui offrent secours et aide dès la tragédie s'éclipsent souvent et les parents accablés se sentent isolés et déprimés. Quand ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent, les autres sont souvent gênés de parler du défunt. Ils changent de sujet et commencent à éviter les parents. Afin d'aider les personnes qui souhaitent venir en aide à ces parents, une liste des comportements souhaitables ou non souhaitables suit et je vais vous la présenter. Quels peuvent être donc ces comportements souhaitables ? Tout d'abord, laisser apparaître son chagrin et son désarroi. Être disponible, écouter, faire les courses, aider les autres enfants, être utile pour quoi que ce soit, même si ça peut sembler sans importance. Dire que l'on est bouleversé de ce qui vient d'arriver et qu'on est conscient de la souffrance de l'autre. Permettre aux personnes en deuil d'exprimer autant de chagrin qu'ils le souhaitent et qu'ils sont désireux de partager. Les laisser parler de la personne décédée autant et aussi souvent qu'ils le désirent. Parler des qualités personnelles du défunt. Être attentif à l'égard des frères et sœurs. Les parents ne sont peut-être pas en mesure de s'occuper d'eux comme ils le voudraient. Et souvent, dans ces familles endeuillées, les frères et sœurs peuvent être, entre guillemets, un peu oubliés et doivent parfois eux-mêmes se soutenir sans l'aide de leurs parents qui sont perclus de chagrin. Rassurer les proches en leur disant qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, en soulignant tous les aspects positifs de leur comportement à l'égard du décédé. Voyons ce qu'on pourrait appeler maintenant les comportements non souhaitables. Les éviter parce que vous vous sentez mal à l'aise. Être évité par des amis, bien sûr, va augmenter le chagrin. Leur dire ce qu'ils devraient ressentir ou faire. Moi, à votre place, je ferai ci, je ferai ça. Vous devriez vous sentir mieux maintenant. Il devrait y avoir un autre comportement. Changer de sujet quand on fait mention de la personne décédée. Éviter de mentionner le prénom ou le nom de la personne décédée par peur de raviver la douleur. Essayer de trouver un aspect positif dans la mort. Après tout, il souffrait beaucoup, il est peut-être bien mieux là où il est. Suggérer aux parents d'avoir un autre enfant. Mais bien sûr, il ne remplacera jamais celui qu'ils ont perdu. Autre comportement non souhaitable, consoler les parents en évoquant l'existence de leurs autres enfants. Vous avez de la chance, il vous en reste deux, vous en aviez trois, il y en a qu'un qui est parti, enfin, etc. Ça, je l'ai entendu, mais il faut à ce moment-là que ça soit en situation. Quand la famille expliquait qu'elle avait perdu ses deux enfants. Je me souviens d'un père qui était d'un certain âge, qui est entre 65 ans à peu près, qui expliquait que lui, sur ses cinq enfants, il en avait perdu deux, mais qu'il lui en restait trois et qu'il avait de la chance. Mais lui, il peut peut-être le dire à sa place. Nous, on ne peut pas dire ce genre de choses. Critiquer les méthodes d'éducation ou les soins apportés. Franchement, vous auriez pu faire autrement pour éduquer vos enfants. Les parents ont facilement un sentiment de doute et de culpabilité s'ils ne sont pas soutenus par leur famille et leurs amis. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, si vous me permettez. Quelques mots de conclusion avant de discuter avec vous. La durée du travail intérieur du deuil est donc variable. Le deuil après suicide peut durer des années, avec souvent une grande intensité. Parfois, il s'amende. L'arrivée, notamment, enfin, quand on est un peu plus âgé, on peut voir donc des familles évoluer. Et l'arrivée, notamment, des petits-enfants peut parfois amener un mieux, un regain d'intérêt. On sera toute sa vie endeuillé par suicide, mais il devient possible de se tourner de nouveau vers la vie, de réinvestir petit à petit de nouvelles relations, de nouveaux attachements. Mais il faut qu'on se le permette. Il faut qu'on ait se dire, eh bien, j'ai le droit. À certains moments, certaines familles disent, mais rendez-vous compte, on est allé à une soirée et on n'a presque plus pensé à notre fils. Et ils en ont honte. Eh bien non. Leur fils, il aurait certainement bien aimé aussi que leurs parents arrivent à faire quelque chose et ne continuent pas à se flageller, à s'auto-punir. Donc, c'est bien sûr, pouvoir aimer la vie ne veut pas dire oublier l'autre. Et aimer la vie, l'un avec l'autre, hein, les parents, mais aussi avec la famille qui vous entoure et les amis. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai prêt à répondre à vos questions. Voilà, on a encore quelques minutes avant la fin, on est jusqu'à 10h30 maximum. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau que j'ai essayé de vous montrer ? Est-ce que, d'après vous, ça correspond à l'idée que vous en faisiez ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, voire choqué, peut-être ? Je ne sais pas.
Nous avons à vivre un exemple, là, mais c'est très, très frais, hein, c'est en ce moment, d'une collègue dont le mari donc, s'est suicidé. Et là, pour le moment, ça fera presque 15 jours donc, qu'elle est en arrêt de maladie, mais après le suicide. Et maintenant, bon, elle veut absolument reprendre le travail. Parce que pour elle, c'est très dur de rester, bien sûr, seule chez elle, entourée de toutes les choses qui lui rappellent son mari, parce que son mari était à la maison. Donc, il y avait beaucoup de choses qui lui parlent d'elle à la maison. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Parce que à la fois elle le veut, bien entendu, elle a peur un peu des. Elle me dit justement, ce n'est pas un cancer. Alors, même si je sais que vous savez, qu'est-ce que je vais dire ? Où est-ce qu'il faut que je dise ? Et nous, pareil, c'est vrai, d'autre part, ça fait. 15 jours, donc elle va reprendre au bout de 15 jours après le décès. Comment l'accompagner au mieux ? Vous disiez que, bien sûr, ces personnes-là ont besoin, d'un grand suivi. Elle va travailler, et je pense qu'elle aura un suivi, bien sûr, de spécialistes. Mais comment nous, au quotidien, avec notre travail, qui est assez, chargé et riche comment nous pouvons au mieux l'accompagner alors que c'est très très frais. Voilà.
Si je veux répondre, je dirais assez rapidement, je prendrai quelques grands points que j'ai exposés tout à l'heure. C'est-à-dire, je crois que la première des choses, c'est pouvoir l'accueillir et être là. Donc, je pense que ça, c'est acquis déjà. Voilà. Vous avez déjà pu la voir, ça c'est déjà un bon point. Peut-être même en, plus ou moins en tant que porte-parole de, peut-être de l'équipe, d'un certain côté. Voilà. Ça aussi, c'est important. Ce qui est fondamental, c'est quel est le sentiment que finalement, le regard des autres ne sera pas un regard désapprobateur ou qui va la mettre de côté parce que il s'est passé quelque chose où de toute façon, elle a peut-être quand même une responsabilité là-dedans. Hein, souvent, c'est ce qu'on s'imagine. Voilà. Hein. Elle s'imagine de ça. Et est-ce que j'ai bien entouré mon mari? Est-ce que j'ai bien fait ci, etc. Bon, on sait bien qu'il y a toujours une part de mystère. Je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais part de mystère dans un acte suicidaire. Hein. Il y a aussi des choses qu'on pouvait en effet envisager, mais de là à envisager qu'il allait réellement passer à l'acte, peut-être est-ce que c'est encore autre chose. Ça, c'est souvent plus compliqué. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est que l'équipe hein, lui exprime, je dirais, suffisamment de choses pour qu'elle puisse se sentir aussi bien qu'elle l'était avant dans cette équipe. Si elle était surtout bien acceptée, ça fonctionnait assez bien, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Avec, bien sûr, au début, des moments où on va un petit peu se regarder, peut-être aussi des moments où elle va être obligée de sortir pour aller pleurer. C'est possible aussi. Hein, bon. Donc il faut accepter ce comportement à partir du moment où, bien sûr, ça ne va pas l'ennuyer dans son travail relationnel. Hein, voilà, parce qu'elle veut, travailler parce que je... Ça paraît peut-être pour elle une évidence. Se retrouvant seule à la maison, c'est pire. Donc lui dire, écoute, non, après ce qui est arrivé, t'es pas capable. C'est pas quelque chose qu'elle vivrait bien. Il faut peut-être lui permettre d'essayer. Voilà. Hein? Ou alors, il faut peut-être lui permettre de travailler à temps partiel. Voilà. Mais peut-être que dans un premier temps, elle ne le veut pas. Elle veut peut-être essayer temps plein. Hein? Voilà. Et c'est ce regard, cette appréciation, ces petits mots, c'est le fait de l'accepter dans votre communauté fait que je dirais que c'est quand même quelque chose de fondamental à la fois symboliquement et dans la réalité. Tu fais toujours partie du groupe, bien qu'il te soit arrivé ça. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Je crois que vous avez raison hein, d'aller dans ce sens-là. Et... je pense que pour elle, ça sera quelque chose qui sera ressenti de manière très positive. Ensuite, elle exprimera les choses si elle a envie de le faire, d'une part. Deuxièmement, vous pouvez aussi, hein, si ça s'y prête à un moment donné, lui dire, bon, de toute façon, tu peux venir me parler hein, quand tu veux. Voilà. À certains moments, bon, en fonction de l'organisation du travail, bien évidemment. Hein, voilà, peut-être à un certain moment, quand, si elle débauche, si vous êtes disponible, bon, voilà. Et il faudra peut-être lui réitérer cette possibilité qu'elle prendra ou qu'elle ne prendra pas. Hein, voilà. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois, vous verrez bien comment elle évolue. Hein, en l'encourageant, hein, bien évidemment, et peut-être en lui... Alors, ça dépend, peut-être que certaines du groupe avaient des relations... en dehors du travail aussi avec elle, donc ça pourra lui permettre aussi de faire certaines choses ou de les recevoir chez elle, voilà, parce qu'il va falloir retourner. Est-ce qu'on peut retourner chez elle alors que chez elle c'est là où il y a eu le mort, hein, parce que c'est quand même la maison du mort, hein, comme disait la personne, là, c'est une maison qui pue la mort, hein, voilà. Alors ils ressentent des choses un peu comme ça. Alors c'est pas toujours aussi violent, hein, mais quand même, hein, je veux dire, il y a quand même quelque chose de là. Est-ce qu'on peut demander encore à quelqu'un de venir dans cette maison? Alors, eh bien oui, hein, c'est bien justement là. Si c'est une maison qui devient un sanctuaire hein, ou bien encore un lieu interdit, c'est terrible. Ça veut dire qu'elle-même, la maison et la personne qui y vit, voilà, elle est complètement décalée de la société. Hein. Alors, je crois que permettez-lui, et puis je crois que vous verrez bien à ce moment-là comment vous pourrez gérer cette situation avec l'équipe.
Des choses qu'elles aimeraient pouvoir lui dire, hein, ou un accompagnement qu'elles aimeraient sûrement le faire, et peut-être qu'il va y avoir, enfin, je ne sais pas, mais des expressions qui ne pourront peut-être pas se, comme ça si facilement. Enfin, je ne sais pas. Parce que je sens certaines collègues plus fragiles que d'autres. Bon, c'est inévitable, hein, des jeunes, bon, voilà. Et je me dis, bon, comment à la fois, bon, bien sûr, tenir les deux bouts, hein, il faut quand même être présente pour elles, mais aussi par tout ce que ça évoque dans les autres, dans leur chemin de vie aussi.
Bien sûr. Monsieur, derrière, à côté de toi.
Je voudrais essayer d'apporter un élément de réponse, parce que moi, mon père s'est suicidé il y a 6 mois, et j'ai repris le travail 7 jours après. J'ai pas voulu justement prolonger l'arrêt de travail, et le travail moi m'a fait du bien en fait, au niveau pour essayer de passer, enfin de franchir une étape comme vous disiez au début. Et après au niveau des collègues, tous ne sont pas venus me voir au départ, ça s'est fait au fil du temps, et justement le lien professionnel a fait que les personnes qui n'osaient pas au début, dans le cadre du travail, ont osé après. Et donc enfin moi ça m'a beaucoup aidé, donc peut-être que... Je ne sais pas si votre collègue, après, ça dépend effectivement des personnalités, comme vous le disiez. Mais ça, pour moi, ça a été une grande aide de reprendre le boulot assez rapidement. Quoi.
Merci pour votre témoignage. Madame.
Oui, moi je voudrais savoir, tout à l'heure vous évoquiez ces idées qui taraudent l'endeuillé, si l'endeuillé doit ou peut espérer se débarrasser de ces idées-là, la culpabilité, la honte, ou s'il doit apprendre à vivre avec. Enfin bon, imaginons une prise en charge, qu'en est-il de ces idées ? Est-ce que...
Alors je crois qu'il ne faut pas penser que... toutes vont disparaître, surtout si elles étaient importantes. Alors, elles ne sont pas aussi importantes chez tout le monde. Hein, donc, à l'expérience, hein, on voit bien que, quand on a vu beaucoup de monde, chez certains, c'est très fort, et des organisateurs, chez d'autres, en particulier les sentiments de honte, sont peu présents. Hein. Récemment, donc, j'ai vu, par exemple, une dame qui avait... entre 65 et 70 ans, dont le fils de 45 ans s'est suicidé, il n'y avait pas vraiment de sentiment de honte. Hein. Il y avait forcément des sentiments de culpabilité, ça c'est obligatoire. Hein, ça. Mais assez vite, je dirais, donc en 6, 8 mois, 1 an, c'est ce que j'appelle vite, ils sont devenus moins intenses. Et après une année, elle a pu reprendre des activités qu'elle avait, des activités associatives, bénévoles, hein, donner beaucoup de choses et beaucoup de temps. Et surtout, elle a pu reprendre contact avec son petit-fils, qui s'était un peu éloigné d'elle. Donc voilà un exemple, je dirais, favorable. Hein, voilà, ça existe aussi. Hein, je veux dire, et on peut quand même, tout en étant endeuillé, continuer à vivre. Voilà. Mais on ne peut pas vivre exactement comme avant. On est forcément à vivre de manière différente dans la mesure où il s'est passé un événement traumatique et il va falloir vivre avec cet élément traumatique. Quand tout se passe au mieux, cet élément traumatique prend moins de place au fur et à mesure des années. Hein, mais il est normal, et heureusement, hein, normal de se souvenir de celui qui n'est plus là. Voilà. Alors après, la façon dont on se souvient de cet absent va être différente suivant les situations. Hein, c'est-à-dire l'histoire qu'on a avec lui, ce qui s'est passé. Ce n'est pas la même chose si c'est quelqu'un d'assez jeune ou quelqu'un qui a déjà beaucoup vécu nombreuses années. Les souvenirs ne sont pas les mêmes, enfin, etc. Donc... Fort heureusement, il y a une certaine évolution. Voilà. Mais il y a aussi des cas, j'en citais un tout à l'heure, hein, où l'évolution peut être peu importante, hein, et la souffrance restait majeure.
Tout à l'heure, vous aviez parlé des rites en disant qu'il y en a de moins en moins. C'est souvent lié à la religion. Pensez-vous que ça aide quand même et qu'on peut proposer aux personnes de créer leur propre rite ?
Dans votre question, il y a un petit peu la réponse. Je pense que oui. Alors les rites, ils peuvent être en effet liés à la religion, mais aussi liés aux habitudes sociales. Aussi, on avait l'habitude de faire comme ci, comme ça. Un endeuillé, où, par exemple, il y a 50 ans, une femme endeuillée, elle s'habillait d'une certaine manière. Au bout d'un an, elle pouvait quitter ses habits de deuil, enfin, etc. On n'avait pas le droit d'aller à tel endroit. Enfin bon, voilà. Donc tout ceci était des permissions possibles. Ceci dans un deuil normal. Quand on est dans un deuil pathologique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais de toute manière, ce qui est de l'ordre du rite, quand, pour certains, ça peut être important dans la mesure où ce sont des rites, entre guillemets, de passage. Et donc, qui permettent donc d'avancer. Voilà, c'est ça l'idée. Si vous voulez, c'est pas un rite, bien sûr, pour un rite. Si c'est qu'un rite de célébration, bon, c'est important. Mais c'est une évocation à ce moment-là. Il faut que ça soit un rite qui permette d'avancer sur le chemin du deuil. Voilà. Dans ce cas-là, je pense qu'en effet, ça peut être salutaire. De toute manière, alors là, ce n'est pas le mot rite, mais c'est plutôt de manière rituelle et régulière, il va y avoir l'évocation de l'endeuillé à certains moments de l'année. Au moment des fêtes, bien sûr, où cette personne pouvait être présente, mais aussi pour son anniversaire, pour alors je sais pas les événements qu'ils ont pu connaître en commun, l'anniversaire, je sais pas si c'est une personne plus âgée, des enfants, l'anniversaire de telle ou telle personne. Alors il y a aussi les lieux qui étaient fréquentés ensemble. Je pense à une dame que j'ai vue il y a deux jours qui a réussi à aller dans l'appartement qu'ils avaient en commun et dont ils disposent 15 jours par an. Donc c'est dans un autre pays. Et donc elle a pu aller, c'était en Espagne, elle a pu aller dans cet appartement. C'était difficile, mais il a pu y aller. Alors elle a pu reprendre, entre guillemets, le rite familial. D'aller dans cet appartement régulièrement, etc. Ça lui a beaucoup coûté, mais bon. Alors, elle n'a pas été très heureuse quand même. Elle n'a pas été très heureuse parce qu'elle était quand même assez seule. Et il y a une histoire qu'elle m'a racontée. Elle avait l'habitude d'aller en particulier dans un restaurant avec son mari parce qu'elle a perdu son fils par suicide et son mari est mort d'un cancer 2 ans après. Et donc elle allait en famille donc dans ce restaurant et en particulier avec son mari et le patron avait l'habitude de venir les voir. Et cette année le patron n'est pas venu la voir. Alors ça peut paraître pas grand chose. Et ben s'est senti un peu mis de côté. S'est dit ben voilà maintenant que je suis seul j'existe plus. Voilà. Alors bon. Après, elle a relativisé, elle a dit, mais oui, bon, il était peut-être occupé, puis il m'a peut-être pas reconnu. Enfin bon, voilà. Mais quand même, sur le moment, c'est ce qu'elle a ressenti, c'est ce qu'elle a vécu. Voilà. Et puis, de voir des familles alors qu'elle n'était pas en famille et qu'elle venait toujours en famille, ça aussi, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est aussi difficile. Donc, le problème, c'est que, je dirais, toute l'année, il y a toujours de bonnes raisons d'évoquer celui qui n'est pas là. Et il faut continuer quand même à vivre. Voilà, c'est ça. D'où l'importance de pouvoir vivre avec celui qui n'est plus là, mais en essayant petit à petit de retrouver une certaine force, hein, quand même, hein, une certaine envie. Hein, je vais le faire quand même pour lui, parce qu'il aurait peut-être aimé ça, peut-être, etc. Enfin bon, ouais. Enfin, chacun trouve un peu les moyens qu'il peut. Hein, voilà, hein, c'est... Il n'y a pas de recette comme ça qu'on peut caler. Ou... Hein, mais ce qui est important quand nous faisons ces accompagnements, dans des cas donc compliqués, c'est justement de montrer que pour la plupart des gens, on peut trouver tout de même en eux-mêmes des solutions. Parce qu'au départ, ils arrivent et puis ils disent bah, de toute façon, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Hein, c'est, et petit à petit, ils arrivent quand même à certains à envisager des scénarios qui leur permettent d'avancer avec parfois des hauts et des bas, bien sûr. Hein. Ce n'est pas forcément très linéaire, mais quand même, hein, ça permet quand même d'avancer un peu.
Oui, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement dire aux familles qui ont par exemple un père ou une mère qui s'est suicidé, qui ont des enfants qui sont de différents âges, hein, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas dire aux enfants? Parce que c'est souvent quelque chose qui pose problème, hein, et les gens ne savent pas. Hein, donc là, je pense que ça serait peut-être bien de parler un petit peu de ça aussi, éventuellement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants plutôt en bas âge? Voilà. Hein, alors... Voilà. Alors, la notion de mort dans notre sens, hein, c'est-à-dire d'absence pour toujours, est quelque chose qui est en général compris vers l'âge de 7 ans, à peu près. Hein. Alors, des fois, peut-être 6, des fois, peut-être plutôt 8. Hein, voilà, c'est autour de cet âge-là qu'on peut comprendre et accepter la permanence. Hein, savoir que bah, il est parti mais il ne reviendra plus. Bon. Ensuite, y a quelque chose qui est deuxième point fondamental, c'est de pouvoir dire la vérité aux enfants. Mais dire la vérité, ça ne veut pas dire tout ce qui s'est passé. On ne peut pas dire la même chose à un enfant de 13 ou 14 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 5 ans et un enfant de 2 ans. Je dirais, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose pour la sexualité. On ne va pas leur dire le même discours pour ces enfants, hein, exactement dire la même chose. Donc, quand on parle de la mort, d'une part, et quand on parle de la mort d'un être cher, par exemple du papa, c'est bien sûr quelque chose qu'il va falloir faire comprendre à toute la famille et l'organiser. Alors souvent, quand il se passe des problèmes de ce type-là, on se dit, pour protéger mes enfants et protéger les plus jeunes, on ne va pas leur dire, on ne va pas les emmener à l'enterrement, on ne va pas les emmener au cimetière, puis on va leur dire « papa est parti ». Ça, c'est fait, ça. Hein, voilà. Ça ne part pas d'un mauvais sentiment, bien évidemment. Ça part plutôt même d'un bon sentiment. Sauf que sur le plan, je dirais, psychologique, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée à terme, hein, puisqu'on va rester dans des comportements où les enfants ne vont pas comprendre ce qui se passe. Quand papa est parti, c'est déjà arrivé qu'il soit parti quelque part. Hein. Maman, elle n'avait pas ce comportement-là. Hein. Elle ne faisait pas cette tête-là. Elle n'avait pas ces habitudes-là. Là, quand même, il est parti et il ne revient pas. Il ne téléphone pas. Hein. On peut se poser quand même des questions. Donc, il va bien falloir lui dire que... son papa, il est mort, hein, et lui montrer où il est. Le problème est tout à fait comparable aussi pour les enfants qui peuvent avoir un handicap. C'était la question qu'on m'a posée ce matin. J'ai rencontré donc une famille ce matin, et la maman, donc, qui a une fille qui est dans une institution, disait, ben voilà, j'ai dit la vérité à mon autre fille, mais à celle-ci, je ne lui ai pas dit. Alors je lui ai quand même dit que, là c'était son frère, que son frère était mort. Mais j'ai pas pu aller plus loin. Alors là aussi, ça dépend de ce que cette jeune fille peut comprendre. Néanmoins, elle peut quand même comprendre qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et je crois que c'est important de pouvoir aller au cimetière ou aller dans l'endroit où se trouve la personne, enfin où ses restes se trouvent, pour pouvoir l'évoquer. Certains, ça les aide quand même beaucoup. Quand il est nulle part, c'est difficile. Vous savez comme c'est difficile de pouvoir faire un deuil lorsqu'on n'a jamais vu de corps, quand les gens sont disparus, hein, et où on se dit toujours peut-être qu'il va revenir ou peut-être que c'est pas vrai qu'il est mort. Hein, c'est un peu un autre débat, mais quand même, hein, si vous voulez, l'absence de représentation et de lieu de commémoration est quelque chose de très difficile à vivre pour tout le monde. Et imposer ceci aux enfants est quelque chose qui ne me paraît pas une bonne idée. Hein? Puisque qu'est-ce qui va se passer dans la tête des enfants? Vous savez, ils se racontent des histoires, les enfants. Hein? Ils imaginent. Hein? Et ils imaginent plein de choses. Et ils peuvent imaginer des choses insensées et terrifiantes. Voilà. Donc, petit à petit, il va falloir quand même les amener à cette vérité. Mais alors, jusqu'où va-t-on aller dans la vérité? Allez, on va dire, je lui ai dit qu'il est mort, mais je ne vais pas lui dire pourquoi. Ou je vais lui dire qu'il était malade. Bon. Alors, pour les plus jeunes, c'est vrai qu'à 2 ans, bon, peut-être que ça peut suffire, dans un premier temps. Ça dépend aussi de la... de ce que le petit garçon ou la petite fille peut demander. Hein? Et ce qui est très important, c'est de pouvoir répondre à ces questions. Hein? Mais si l'enfant, 4, 5, 6 ans, 7 ans, sent bien qu'il y a des questions qu'il ne faut pas poser, il ne va pas les poser. Il faut aussi, c'est un peu, là encore une fois, comme la sexualité, il va poser les questions qu'on va lui permettre quelque part, où il a le sentiment qu'on peut lui permettre de les poser. Ensuite, à nous de répondre la manière dont on juge la plus adéquate. Qu'est-ce qui est possible de lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire, moi? Je peux lui dire, c'est-à-dire que je suis en capacité de lui dire quoi? J'arriverai même pas à l'évoquer. Alors à ce moment-là, ça peut être peut-être quelqu'un d'autre de la famille. Si vous voulez, je crois qu'il y a il y a bien sûr des moments où il faut toujours dire la vérité, mais pouvoir la présenter aussi d'une certaine manière, cette vérité. Hein, c'est-à-dire avec prudence, tact, mais ne jamais mentir. Parce que l'enfant, il saura de toute manière ce qui se passe. Hein. Les plus grands lui diront, ou bien encore, quand il va aller à l'école, c'est bien rare s'il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah bah tiens, ça c'est le fils du suicidé. » Et il va dire « Bah dis maman, c'est quoi suicidé ?» Voilà. Hein. Alors, c'est pour ça que dans des cas aussi compliqués parfois, il peut être important de se faire conseiller, hein, pour savoir ce qu'on va dire, hein, comment on va le présenter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi il a fait ça? Ben, peut-être parce qu'il souffrait beaucoup. Hein, voilà. Et c'était compliqué pour lui. Enfin bon, pour telle ou telle situation. Enfin, ça va dépendre après un peu des situations. Alors, soit on est capable de le dire, soit on n'est pas capable. Si on n'est pas capable, on peut attendre un petit peu ou bien encore le faire dire par d'autres. Hein, à condition que ce soit des personnes de confiance et qui soient proches de vous, bien sûr. Hein, donc, un discours adapté en fonction de l'âge, hein, et pas de mensonge. Hein, mais par contre, on va adapter le contenu progressivement en fonction de cet âge. Ça te convient ? Et madame ? Et madame ? Alors madame peut-être au fond et puis vous ?
Dans les références que vous avez citées, sauf erreur de ma part, il s'agissait de spécialistes en psychiatrie.
Oui, en psychiatrie, psychologie, si vous voulez.
Oui, oui. Est-ce que votre discipline, enfin les gens qui relèvent de votre discipline, s'appuient aussi sur des travaux de philosophes éventuellement ? Moi, je pense à Boris Cyrulnik, je ne sais pas s'il est philosophe.
Non, il est psychiatre.
Il est en psychologie. Il est psychiatre, c'est vrai. Mais bon, je le vois plus comme un philosophe.
Pas un philosophe, oui. Non.
Non, mais je pense qu'il y a des philosophes
alors,
qui ont
traité
des sujets
aussi.
On va
laisser Boris de côté, un grand garçon que je connais bien, mais on va le laisser de côté, Boris. Mais, alors, la philosophie, hein. Le suicide et la philosophie, hein, c'est un sujet intéressant. Hein. Vous savez, Camus a dit, c'est la seule chose intéressante dans la vie, c'est justement c'est le suicide. Hein, c'est, voilà. Alors, Camus, un peu plus que Cyrulnik, quand même. Donc vous voyez, hein, c'est... Alors, si je dis ça, c'est parce que c'est hyper connu. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Hein. Je crois qu'on a le droit d'avoir une réflexion philosophique, hein, ou comme une réflexion, je dirais, aussi religieuse. Hein, ça, c'est... À aucun moment, j'ai abordé ni l'un ni l'autre. Alors, la réflexion religieuse, c'est du domaine des croyances, et chacun a les siennes. Voilà. La philosophie, ce sont pas des croyances, mais ce sont des convictions, parfois, hein, et chacun les siennes, si vous voulez. Mais on ne peut pas, je crois, tout mélanger au niveau des références. Hein. Et quand on essaye d'avoir une certaine unité de pensée, il faut rester dans son champ. Voilà. Hein. Alors on peut éventuellement faire une petite digression quand je traite le sujet éthique et suicide, parfois. Hein. En effet, là, on est un peu à la ligne de partage, un petit peu plus d'une réflexion philosophique. Mais quand on essaye de réfléchir autour de questions pratiques, si vous voulez, autour de ces sujets-là, il ne faut pas trop mélanger quelque chose qui serait en plus complexe à expliquer. Voilà. Et alors, les philosophes, ils ont tous aussi, je dirais parfois, leur soucis psychologiques. Hein ? Il y en a beaucoup qui étaient quand même... qui présentaient des problèmes psychologiques, des philosophes. Donc, là aussi, leur présentation de leur théorie pourrait aussi être teintée de ça. Alors, il y a aussi certains philosophes qui se sont suicidés. Ça peut être aussi intéressant. Voilà. Les psychiatres aussi. Encore plus parce que vous savez que les médecins se suicident beaucoup, et les psychiatres en particulier. Donc, voilà. Enfin, les soignants, en général, se suicident beaucoup. Pas tant que ça, mais disons deux fois plus que les autres. Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu... je vais prendre un exemple un peu caricatural. Par exemple, on a beaucoup discuté pendant un temps, on en parle moins maintenant, mais on a parlé du suicide de Monterland, par exemple. Alors, on a dit, Monterland, il s'est suicidé, il a choisi de se suicider, c'était clair, voilà. C'était pas si clair que ça. Monterland était bipolaire. Et puis, à la fin de sa vie, il était aveugle. Il supportait pas ça. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est compliqué. Voilà, hein, c'est simplement la complexité des choses. Voilà, c'est pas une discussion philosophique. C'est simplement pour dire qu'on peut avoir, et c'est tout à fait légitime, des convictions philosophiques. C'est très bien. Mais que... La nature humaine étant tellement compliquée qu'il faut se méfier quand on veut à ce moment-là discuter avec un vocabulaire philosophique sur des questions qui sont, je dirais, complexes et qui touchent également, je dirais, le fonctionnement psychologique. Voilà. Donc, pour faire simple et pas trop confus, je suis resté donc dans mon champ que je connais un peu mieux. Voilà.
Je voudrais juste ajouter, mais pour des raisons pratiques, je lis Camus en ce moment pour essayer de comprendre l'acceptation. Parce que les critiques parlent de son de ce sujet, quoi, entre l'acceptation et la révolte. Ou l'inverse, c'est plutôt l'inverse chez lui, et ça, j'arrive pas à comprendre.
Mais persister, je sens que vous êtes pas loin du but.
Une question pratique, si c'est possible de la poser ici. Vous avez évoqué des associations.
Oui.
Est-ce que c'est le
alors, les associations, bien. Il existe dans la région, on a créé dans la région il y a maintenant quelques années donc, l'association régionale Vivre son deuil. Donc là, je parlais de la Fédération européenne donc, qui regroupe une dizaine d'associations régionales. Mais j'ai créé l'association régionale en son temps il y a quelques années avec d'autres. Et d'autres, ça veut dire d'autres personnes donc, qui s'occupent des associations autour du deuil. Alors, il y en a une qui s'appelle Jonathan Pierre-Vivante, par exemple, qui s'occupe du deuil. Ce sont les parents endeuillés, soit par le décès d'un enfant, soit par maladie, soit par accident, soit par suicide. Hein, donc, qui accueillent les parents. Voilà. Ce sont des parents qui accueillent d'autres parents. Hein, ils sont tous endeuillés. Hein, voilà. Mais certains ont fait un chemin plus important et sont capables d'accueillir d'autres personnes. Dans cette association, il y a aussi une partie de frères et sœurs. Hein, qui accueille donc des frères et sœurs qui sont endeuillés, bien sûr. Il y a l'association Jalmave, ici, qui se trouve, que certains connaissent peut-être, qui s'occupe des fins de vie, souvent, qui vont accompagner les gens en fin de vie, mais qui font aussi des groupes d'endeuillés. Voilà, maintenant. Et puis, donc dans la région, puisque cette association est régionale, il y a aussi dans les autres départements donc des associations souvent qui s'occupent des personnes en fin de vie, mais aussi qui ont des groupes d'endeuillés, alors soit endeuillés par suicide, soit endeuillés pour d'autres raisons. Voilà, hein. Donc, il y en a un petit peu partout. Voilà, heureusement. Et puis... bon, il y a des lieux, notamment à Niort, ils font un petit peu, mais surtout à La Rochelle, il y a des groupes pour les enfants. Voilà. En particulier au CMPP à La Rochelle. Donc le CMPP fait partie de notre association régionale Vive son deuil. Voilà. Et on va organiser d'ailleurs le 6 novembre prochain à La Rochelle notre journée régionale de l'association Vive son deuil, donc Poitou-Charentes, sur le thème des rites et des nouveaux rites. Hein, bon, voilà. Hein. Vous parliez des rites. Si ça vous intéresse, vous êtes la bienvenue à La Rochelle. C'est gratuit. Il faut aller jusqu'à La Rochelle. Ça sera la salle de l'oratoire qui se trouve près de la place de Verdun. Là, c'est ça, la grande place là où il y a le... Voilà, et où on discutera donc le matin sur ce thème général. Et l'après-midi, il y aura des ateliers... notamment, bon, moi j'anime celui sur le deuil sans corps, hein, mais il y a aussi des ateliers sur les deuils chez les personnes précaires dans la rue, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ces personnes qui vont mourir, qu'est-ce qu'on leur réserve comme place? Il y aura un autre autour de la crémation, hein, qui a beaucoup changé au fur et à mesure des années, voilà, etc. Enfin, donc plusieurs ateliers. Voilà. Donc, si ça vous intéresse.
Il y a un site sur lequel on peut retrouver l'adresse de VSD régional.
Alors, il vaut mieux aller sur le site de national, enfin européen, de la Fédération européenne Vive son deuil. Hein, voilà. Et on trouve à ce moment-là les adresses du Poitou-Charentes. Parce que nous, on n'a pas de site directement de Poitou-Charentes, ici. Madame ?
Oui, deux petites choses. Une, parce que j'ai vécu l'expérience d'accompagner une amie dont la fille s'est suicidée. Et je disais que vous disiez, enfin du moins, que c'était, il fallait beaucoup d'écoute. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent pendant des heures et des heures, les mêmes photos que l'on voit, les mêmes, bon, chaque fois qu'on va les voir. Et moi particulièrement, mais bien d'autres, on est un peu gênés parce que, y a les, comme vous disiez, il y a les frères et sœurs. Et nous, on a passé, par exemple, toute la matinée, toute l'après-midi à évoquer les dessins, les photos et tout ça de la petite fille qui est partie. Et ben, les frères et sœurs, on les voit pas, on ne joue plus avec et tout ça. Bon, moi, personnellement, bon, au départ, c'est vrai, j'étais beaucoup plus, bien sûr... sur l'enfant décédé. Et après, progressivement, si vous voulez, j'essayais de me retirer un petit peu pour amener la maman vers le jeu ou le repas du bébé, enfin bon, etc. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais bon, ça me semblait un petit peu, parce que je me sentais coupée complètement les autres enfants. Voilà, et c'est vrai que bon, cette famille l'a exprimé. Ça a duré très très longtemps, hein, ce jeu des photos, des choses qu'elle collectionnait. Ça a duré des années et des années. Et que les amis s'épuisent d'avoir toujours. Et en tant qu'amis, c'est vrai, là, on n'est pas toujours aidés, hein, pour cela, parce que d'une part. Et un autre sujet quand vous évoquiez, bon, pour donc la veuve de personne suicidée, si cette personne a des moments, ma foi, ou des creux, comme vous dites, des fragilités, qui peut évoquer chez nous des doutes, hein, à qui peut-on s'adresser? Bon, si la personne, bien sûr, si on la connaît, du moins dans le milieu de travail, comme j'évoquais tout à l'heure, bon, peut-être qu'on peut s'adresser, bien sûr, au médecin de la médecine préventive. Mais si c'est, bon, ma foi, quelqu'un que vous connaissez simplement, vous avez des craintes, pour pas dire des peurs. Et est-ce que vous pouvez vous adresser... la famille, encore, on ne la connaît pas toujours. Ou alors, si vous avez entendu parler de son médecin ou de son psy, est-ce que on peut donner un coup de fil en disant, écoutez, je suis une amie proche, je suis inquiète. Bon, voilà, je sais, c'est une question parce que le cas s'est posé.
Alors, il y en a plusieurs des questions. On va essayer de les reprendre dans l'ordre. La première, vous posiez la question de savoir si vous aviez bien fait. Petit à petit, vous avez essayé de décentrer l'attention de la mère vers les autres membres de la famille. La réponse est bien sûr oui, hein, puisque l'idée, hein, elle est bien celle-ci. C'est, vous l'avez bien compris d'ailleurs, hein, c'est de pouvoir faire exister la personne endeuillée par suicide, non pas uniquement autour de la personne qui n'est plus là, qui est partie, qui est décédée, qui est donc morte par suicide, mais aussi de continuer à la faire vivre à l'intérieur de la famille, sans oublier les autres membres de la famille. Hein, parce que la problématique, c'est que chacun risque d'être un peu concentré autour de soi, et même dans une famille où il n'y aurait qu'un père et une mère, et on rencontre régulièrement des difficultés entre ce père et cette mère. Le père, la mère disant au père, mais toi, tu pleures jamais, donc tu n'as jamais de chagrin, je t'ai jamais vu pleurer. Et le père, lorsqu'on le voit... seul, il me dit, mais moi, pleurer, moi je pleure tout seul quand je suis dans la salle de bain ou tout seul dans ma voiture. Voilà. Hein? Donc déjà, entre le père et la mère, il y a des difficultés, enfin il peut y avoir des différences, et c'est normal qu'il y ait des différences. On ne va pas réagir de la même manière. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir faire parler l'ensemble des gens les uns avec les autres, pour que tous les membres de la même famille, au moins, se regardent. Hein, et ne se concentrent pas uniquement sur eux-mêmes, même si à certains moments, ça peut être utile de se concentrer sur soi, mais à d'autres moments, il y a aussi les autres. Donc, bien sûr, ça, c'est l'ouverture. Et l'ouverture aussi vers l'extérieur, hein, est fondamentale, c'est-à-dire qu'on peut aussi trouver d'autres moments pour aider ces personnes en faisant des activités autres. Voilà, une promenade, je ne sais pas quoi, enfin tout ce qui peut aussi les intéresser ou autre chose. Hein. Alors, ensuite, je vais sauter à la fin, à la question qui est un peu plus compliquée, c'est comment faire quand je sens qu'elle n'est pas bien, à qui j'en réfère. Voilà. Hein. Alors, je crois que l'idéal, c'est quand même de pouvoir accompagner, je dirais, la personne qui ne va pas bien vers celui qui peut l'aider, susceptible de l'aider. C'est toujours mieux. Alors peut-être que ça pourrait être utile que vous l'accompagniez chez son médecin. Hein ? C'est toujours un petit peu plus délicat de téléphoner directement au médecin. Voilà. Ou alors, il faut lui dire, écoute, moi, vraiment, je suis très inquiète, tu ne fais rien, moi, je vais téléphoner à ton médecin, voilà, parce que je ne peux pas continuer à te voir comme ça, et je te trouve même suicidaire, et je ne veux pas te laisser comme ça suicidaire, etc. Bon, peut-être, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Bon, il faut vraiment bien connaître les gens, mais ça peut se faire, pourquoi pas, hein ? Certainement pas le faire en douce, si vous voulez. Hein ? Voilà, ce n'est pas trop productif, ça. Je vous dis, mais peut-être que le mieux, c'est d'essayer de l'accompagner vers, bon, si c'est le médecin, par exemple. Hein, écoute, je t'emmène, même si vous la laissez toute seule avec le médecin, vous l'avez accompagnée jusqu'à la porte, hein, et puis vous attendez dans la salle d'attente. Je crois que c'est cet accompagnement qui est très fort et qui montre un véritable attachement de votre part. Hein, voilà. Eh bien, une dernière question, voilà, ou une remarque.
Je suis bénévole de l'association Jalmarve, donc c'était pour vous signaler que nous avons des permanences 18 rue Coimbra à Poitiers, le mardi de 17h30 à 19h. Donc si les gens veulent passer, voilà, c'est tout.
Eh bien, merci pour ces précisions. Oui, vous avez été un peu vite. Recommencez.
Alors, nous avons des permanences. Alors, 18 rue Coimbra. C'est à côté de l'école Alphonse Daudet à Poitiers, du côté des Couronneries. Donc, alors les permanences, c'est le mardi, donc de 17h30 à 19h. Tous les mardis, et c'est au troisième étage. C'est dans les anciens locaux de l'école, l'ancien logement de fonction des instituteurs. Alors, c'est Jalmarve, J-A-L. Alors, Jalmarve, ça veut dire jusqu'à la mort, accompagner la vie. Qui a deux pieds, un pied qui... Enfin, on dit qu'il y a un pied à l'association, c'est-à-dire que l'association accompagne les personnes en fin de vie et accompagne aussi les endeuillés. Voilà. Et il y aura la journée des associations aussi, il y aura un stand de Jalmarve. Ouais.
Voilà. Voilà, merci pour ces précisions. C'est vrai. Peut-être madame, là, je crois que vous avez levé la main, c'est ça ?
On conseille beaucoup justement de voir des psychologues ou des gens comme ça, mais à qui s'adresser pour avoir des prises en charge assez rapides ? Parce que selon les périodes de l'année, quand il se passe des choses comme ça, je veux dire, des fois, on fait patienter les gens.
Alors,
dans ce cas-là, dans la consolidation, dans l'urgence, on va voir qui ?
Il y a les CMP, déjà.
Voilà.
Non, enfin, avoir un rendez-vous auprès d'un infirmier qui va avec vous évaluer un petit peu, je dirais là, l'importance et la difficulté que vous vivez, ça va être dans la semaine, quels que soient les CMP. Et souvent, si c'est en urgence, pour les adultes,
allez. Bon. On va donner la parole à une responsable
oui.
de CMP.
Donc, je voulais vous parler un petit peu. Je suis psychiatre dans un des CMP de Poitiers. Donc, sur Poitiers, hein, les CMP sont tous regroupés, donc 14 rue Gay-Lussac à Poitiers, hein, donc dans le quartier de Beaulieu. Hein. Donc il y a trois secteurs hein, donc de psychiatrie adulte sur Poitiers. Hein, donc il y en a quatre sur la Vienne, mais l'autre c'est sur Châtellerault. Hein. Et c'est vrai que les CMP fonctionnent de 9h à 19h. Et il doit pouvoir, il y a un numéro de téléphone unique, hein, il y a un secrétariat qui vous accueille, qui vous dirige sur le CMP qui correspond. Donc il y a un seul numéro depuis 2 ans. Hein, donc là, il y a un numéro unique. Et à partir de là, vous êtes dirigé sur les infirmiers qui peuvent vous recevoir. Il y a des accueils normalement dans les jours qui suivent, hein, alors selon les périodes, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Hein. Donc il y a toujours un accueil infirmier qui peut se passer dans les jours qui suivent. La preuve en est, c'est qu'on travaille avec les urgences de Poitiers, justement, pour les personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Hein. Il y a un protocole qui nous amène à les suivre dans les jours qui suivent. Hein, et c'est comme ça que ça se passe, que les transmissions se font. Alors, normalement, quand vous appelez, vous devez avoir une réponse. Si on vous dit, madame ou monsieur, vous verrez un infirmier dans 3 mois, c'est pas possible. Hein. Donc, un infirmier, non. Un infirmier, c'est pas possible. Un psychiatre, oui. Un psychiatre, peut-être que ça peut se voir, mais un infirmier, tous les patients sont vus par des infirmiers normalement dans la semaine. Et ensuite, l'infirmier en réfère au psychiatre qui voit si oui ou non il peut accueillir la personne en urgence. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit se passer. Si ça ne se passe pas comme ça, vous pouvez éventuellement vous rapprocher de moi et je peux essayer de vous informer un peu plus. Mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Pour les adultes, hein, je veux dire. Les enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Je ne vais pas. Alors, Châtellerault, c'est vrai que là, madame, je ne vous parle pas de Châtellerault, je vous parle de Poitiers. Moi, Châtellerault, j'ai travaillé il y a longtemps, mais là, je n'y travaille plus. Mais c'est important que je puisse faire remonter cette information éventuellement. Il faut essayer d'avancer quand même, si on peut, et d'écouter les personnes comme vous. Hein, donc, d'accord. Enfin, en tout cas, sur Poitiers, bon, voilà comment ça doit se passer.
Allez, vous avez droit à la dernière, parce que sinon on va nous mettre dehors, 10h30. Mais allez-y, madame, je vous en prie.
J'aimerais savoir comment expliquer à mes enfants que je n'ai plus envie de beaucoup de choses, c'est-à-dire plus envie de m'habiller en couleur, plus envie de teindre les cheveux, plus envie de sortir, plus envie de voir le monde. Et avoir très peu envie de voir mes petits-enfants. Comment expliquer ?
Je dirais que l'explication est simple. En sortir est plus difficile. Alors l'explication, c'est parce que vous êtes très déprimée, madame. Voilà, ça, c'est pas très difficile. Hein, je pense que vous présentez un état dépressif vrai, voilà, qui dure, qui est persistant. C'est ce que j'ai expliqué, hein, cet état dépressif persistant. Voilà. C'est pas facile d'en sortir, par contre. Hein, si le diagnostic est simple, ensuite, la prise en charge est compliquée. Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que c'est pas une dépression, je dirais, simple. Hein, c'est une dépression qui est compliquée parce qu'elle est liée, alors probablement à un deuil par suicide, oui. Hein, voilà, et que ce qui est difficile, c'est justement vous aider dans ce chemin de deuil par suicide. Alors, on va pas faire ici une consultation, bien sûr, devant tout le monde, mais il va falloir essayer d'appréhender où est-ce que vous en êtes, hein, un petit peu. Voilà. Vous avez vu, bon, voilà, où est-ce que où un petit peu vous en êtes, comment ça s'est passé depuis X mois ou X années, etc.
18 mois.
Voilà, 18 mois. Donc, voilà, et puis voir un peu comment vous étiez avant. Enfin, ça demande quand même un peu de temps pour évaluer tout ceci. Alors, on l'évalue avec vous, bien sûr. Et puis ensuite, on essaye de voir... Bah, sur quoi on peut s'appuyer pour que vous puissiez aller mieux, hein. Et ça demande souvent un peu de temps. Hein. Je disais tout à l'heure, j'évoquais une dame pour laquelle ça s'est plutôt bien passé. Bon, ça a mis 1 an et demi avant qu'elle arrive à bien s'en sortir. Elle n'était pas trop mal. Voilà, hein. Donc vous qui êtes plus mal, ça veut dire qu'il faut compter plusieurs années de, hein, plus ou moins de suivi intense, mais quand même, hein, je veux dire, voilà. Donc souvent, ce qu'on conseille, c'est de mélanger à la fois des suivis spécialisés et aussi de l'aide dans les associations. Hein, c'est tout à fait complémentaire. C'est ce que, en tout cas, pour ma part, je préconise. C'est parce qu'on ne trouve pas les mêmes choses, les mêmes façons de fonctionner. Donc, souvent, alors, les associations, après, vous trouvez celle qui vous correspond le mieux. Parfois, on est plus à l'aise avec un tel, d'autres fois, c'est plutôt dans l'autre association. Qu'importe, ils font tous partie de la même famille. Ça n'a pas d'importance. Mais je crois que ça, c'est comme ça que vous arriverez à aller mieux. Donc, je résume l'explication, c'est parce que je suis très déprimé et que j'ai de bonnes raisons d'être déprimé par rapport à ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai envie de rien, que je ne vais pas m'habiller autrement, que je ne vais pas me coiffer comme avant, que je n'ai plus envie de sortir, etc. Ça, c'est évident, et je crois que les autres y comprendront bien. Par contre, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais pour te sortir de ça ? Je ne sais pas quoi faire. Voilà, ce que je vous dis, c'est qu'il faut persister. Si vous avez un rendez-vous dans 3 mois avec X, Y ou Z dans un endroit, vous pouvez choisir qui vous voulez voir. Bon, je pense que ça peut être une aide. Mais je vous dis, il faut souvent le compléter par une association. Certains préfèrent parfois avoir que être suivi dans les associations. D'autres préfèrent que être suivi par un spécialiste. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que souvent, c'est bien qu'il y ait des étapes aussi comme ça, différentes, et des complémentarités qui se fassent. Parce que voir aussi d'autres personnes comme vous, ça permet d'échanger, de voir comment les autres ont fait. Et on peut parler plus librement avec des gens, comme disent ces personnes, qui sont comme nous et qui peuvent nous comprendre. Et puis, des professionnels un peu orientés ou spécialisés dans ces domaines-là. C'est vrai que tous n'ont pas le même intérêt sur ces problématiques-là, c'est vrai. On est quelques-uns à le faire, mais bon, je pense que tous nos collègues ne sont pas intéressés de la même manière, ça c'est vrai.
Je vous remercie.
Voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous souhaite une bonne nuit, et revenez souvent à l'espace Mendès France, qui est si beau, si dynamique.